Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Guillaume Buffet.
Bonjour, bonsoir. Quelques rares accessoires, une barre de studio de danse, une petite chaise, un globe lumineux qui descend des cintres, un tapis blanc que l'on déroule, et seule en scène, une femme qui danse, Marie-Claude Pietragala. Cela fait 40 ans qu'il en est ainsi, 40 ans qu'elle partage sa sensibilité avec les spectateurs à travers des personnages romanesques, 40 ans qu'elle crée des combinaisons de mouvements, 40 ans qu'elle consacre sa vie au théâtre du corps, pour reprendre le nom de la compagnie qu'elle a créée avec le danseur et chorégraphe Julien de Rouault, quelques années après avoir quitté l'Opéra de Paris, dont elle fut danseuse étoile. Ensemble, ils ont créé de nombreux spectacles, dont celui dont nous allons parler aujourd'hui, un spectacle total qui mêle le corps et les mots, la voix et le mouvement, la vidéo, le son et les lumières, et qui partage avec le public son rapport à l'art. Pietragala, la femme qui danse, chorégraphie et textes inédits de Marie-Claude Pietragala, mise en scène de Julien de Rouault, c'est donc à Paris en ce moment au Théâtre de la Madeleine, c'est jusqu'au 6 novembre, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Marie-Claude Pietragala.
Bonjour.
Bonjour Julien Doreau.
Bonjour.
C'est assez rare, Marie-Claude Pietragala, pour un danseur ou une danseuse de fêter ses 40 ans de scène. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de regarder dans le rétroviseur?
Parce que je suis partie de textes que j'ai écrits sur la danse, pas uniquement sur ma vie, mais sur les sensations qu'on peut avoir sur scène, les émotions qui nous traversent. Le rapport à l'espace, à la musique, au rythme, à des gens qui m'ont fait rêver, des grands maîtres. Et puis, en les faisant lire à Julien, il m'a dit, ça serait peut-être bien qu'on fasse aussi un voyage chorégraphique à travers ces textes. Et voilà. Donc ça, c'est effectivement un voyage intime à travers mes sensations et mes émotions, mais qui parle de la danse dans son universalité, dans la danse avec un grand D. Voilà, au-delà de toute esthétique et de la technique. Et c'est pour ça que d'ailleurs que j'ai appelé ça la femme qui danse, parce que pour moi, ce qui est le plus important pour nous d'ailleurs, Julien aussi, c'est l'humanité qui transparaît des danseurs.
Alors vous vous êtes rencontrés tous les deux quand vous avez été nommée Marie-Claude Pietragala comme directrice générale du Ballet de Marseille, c'était en 98, vous formez un couple tous deux à la scène comme à la ville, vous avez multiplié les créations ensemble. Ce travail-ci, Julien de Rouault, est-ce que c'est un travail un peu particulier, puisqu'il ne s'agit pas pour Marie-Claude Pietragala d'être un personnage, mais d'être son personnage. C'est pas tout à fait la même chose, j'imagine.
Non, non, d'ailleurs, ça aurait pu... Enfin, moi, c'était... Il y avait une pression sur ce spectacle, parce que ça pouvait être casse-gueule, parce que l'idée était en effet pas du tout de tomber dans quelque chose d'anecdotique, dans « moi, Pietra, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ma carrière a commencé à tel âge ». Enfin, je voulais pas que ça tombe dans quelque chose d'un peu de conférence, ou même si en soi, ça peut être très intéressant de savoir quel est le parcours exact de Pietra, parce que c'est quand même une danseuse de légende. Mais
d'ailleurs, dans la salle, hein, y a des jeunes danseuses qui sont là, toutes oui, et qui se disent « ah ben tiens, ce serait peut-être pas mal si je pouvais lui ressembler ».
Que Pietra soit inspirante pour les jeunes danseuses, je le comprends bien, c'est normal, parce qu'elle est inspirante quand vous la voyez sur scène. Mais justement, ce qu'elle explique au départ, quand elle dit que c'est un animal mimant, moi c'était ça qui m'intéressait de traduire aussi, c'est que ce que dit Pietra, c'est que quand on danse, on est traversé par beaucoup de choses, et que souvent les danseurs étant privés de parole par essence, puisque c'est pas notre métier premier de nous exprimer sur scène, l'idée d'introduire du texte et justement d'expliquer au public ce qui nous traverse quand on danse, permet aussi de nous connecter aux gens d'une autre façon, et d'une certaine manière, le public se met à percevoir, par le souffle aussi, percevoir d'autres choses et à comprendre ce qui est en train de se passer sur scène. Et ça, c'est très intéressant.
C'est-à-dire que vous avez commencé, pour réfléchir à ce spectacle, par les mots, par les fameux textes que Marie-Claude Pietragala a évoqués à l'instant. C'est vraiment des textes écrits, de l'écrit, ou de l'oralité finalement, qu'a démarré le spectacle?
Non, on voulait que ça soit écrit, parce qu'on voulait justement une base assez solide, même si après on a taillé un peu dans les textes, on a essayé de voir un peu quel était notre synopsis, et comment on allait dérouler aussi cette mémoire, parce que ce qui était intéressant, pour éviter également la conférence ou un peu le parcours de vie, c'est que la mémoire du corps, et Pietra le raconte sur scène, c'est que la mémoire du corps, il suffit par exemple d'entendre une musique et tout d'un coup le corps se souvient de la chorégraphie. Surtout quand vous l'avez répété des centaines et des centaines de fois, ce que fait toujours un danseur pour une chorégraphie. Donc il y a une sorte de ce que j'appelle la mémoire des cellules. Et ça, c'est très intéressant pour nous, parce qu'on a l'impression d'être un peu des bêtes curieuses. C'est-à-dire que tout d'un coup, le corps réagit avant le cerveau d'une certaine manière. Il a tellement fait les gestes que la musique le permet tout d'un coup de voyager, de revenir finalement des fois 20, 15 ans, 20 ans plus tard, comme une mémoire d'un comédien sur un texte qu'il aurait joué. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est le corps qui prend la parole. Et donc, c'est un peu ce discours et cette mémoire du corps et aussi de la mémoire écrite. Parce que justement, on se pose, on écrit, on essaye de dérouler quelque chose de cohérent.
Vous avez joué un rôle d'accoucheur, si j'ose dire. Vous avez essayé de faire en sorte qu'elle puisse accoucher de ses souvenirs.
Peut-être pas d'accoucheur, mais j'étais plutôt l'œil extérieur qui faisait qu'à chaque fois, je lui disais, ça, par exemple, peut-être que ça nous intéresse moins, ça m'intéresse, ça, il faut creuser cet aspect-là. Par exemple, le rapport de Pietra avec Rudolf Nureyev, moi, j'ai des fois l'impression de partager aussi mes dimanches avec Rudolf, tellement son souvenir est présent chez Pietra. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui l'a marqué en tant que danseuse et qui aura marqué toute sa génération. Et ça, c'est des souvenirs qu'on a eu envie aussi de donner aux gens, au public, aux jeunes danseurs, parce que c'est des mémoires, en fait, il y a beaucoup d'oralité dans la transmission en danse, et finalement, voilà, si vous ne captez pas ça, aujourd'hui on en a les moyens avec les téléphones, les caméras, etc., mais Pietra vient aussi d'un moment où il n'y avait pas ça. Donc ça veut dire que ce souvenir-là, si Pietra ne le transmet pas, il va mourir avec elle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a aussi cette envie de à la nouvelle génération de leur dire voilà d'où je viens, voilà qui j'ai rencontré. Aujourd'hui ces gens-là pour eux c'est des légendes, ils sont dans les livres ces gens-là. Pietra les a côtoyés, donc elle a appris de ces bêtes-là quelle était leur animalité et c'est de celle-là dont elle s'est inspirée.
Et ça continue, hein. Je suis un animal mimant, un animal dansant, un être incarné et désincarné qui évolue au gré d'un rythme intérieur, d'un souffle musical, d'une conscience éclairée. C'est l'une des phrases clés du spectacle, Marie-Claude Pietragala, elle est d'ailleurs en épigraphe du programme que les spectateurs peuvent se procurer en arrivant dans la salle. On va essayer de bien saisir les différentes facettes de cette phrase tout au long de cette émission. Et pour commencer, eh bien, le mot animal, je suis allé regarder la définition du mot animal dans le dictionnaire Le Robert. Être vivant, organisé, doué de sensibilité et qui, en général, peut se mouvoir.
Ah ben voilà.
La vie, la sensibilité et, en général, le mouvement. C'est ça, une danseuse ou un danseur ?
Oui, ça, c'est ça, une femme qui danse ou un homme qui danse. Je crois que c'est un subtil mélange entre l'instinct, la poésie, l'humanité, la technique, la virtuosité, le mouvement...
Mais le mouvement intervient après dans la définition du Robert, bien après la sensibilité ou
oui,
la vie.
Oui, parce que c'est toujours la pensée qui induit le mouvement. Le mouvement, il n'est pas comme ça spontanément. Il y a une pensée, il y a quelque chose qui va véhiculer justement ce mouvement. Vous avez passé un extrait qui est très intéressant parce que ça c'est un travail sur la voix, sur le souffle. Et moi, je voulais absolument que le spectateur soit près de l'artiste comme s'il venait le voir en studio. Et la respiration a quelque chose de fondamental. Souvent, on le cache chez un danseur. On le voit pas.
Oui, c'est très lisse. Surtout pas paraître essoufflé,
l'image,
quoi, vraiment.
L'image
pas.
Est lisse. Alors que, en fin de compte, c'est le souffle, c'est la vie, et cette énergie, c'est cette énergie-là qui induit le mouvement, qui le conduit. Donc c'est très très important. Donc il y a eu tout un travail sur la voix.
Vous l'avez pleinement intégré au spectacle, hein, Julien de Roux, ce travail justement sur le souffle qui parfois, à travers un système d'écho aussi, un système de micro, de sonorisation, donc prolonge aussi le geste.
prolonge le geste. Pietra disait pour ça permet en effet d'observer, enfin trouver une intimité avec le spectateur. Puis aussi c'est que ça devient aussi une base musicale. C'est-à-dire que tout d'un coup on s'aperçoit, et nous on s'est aperçu depuis très longtemps qu'en fait quand on calait notre souffle, et c'est souvent ce que font les danseurs en fait, même malgré eux, c'est qu'on cale notre souffle sur la musique, sur le rythme de la musique. Ce qui est assez logique d'ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs que la musique est interdite pour les sportifs, considérée comme un produit dopant. Puisque finalement, si une musique s'accélère, vous accélérez votre cœur, donc vous courez plus vite. Vous faites plus des... Donc, d'une certaine manière, on est calé là-dessus. Et c'est vrai que le fait de l'entendre permet aussi de... aux gens de comprendre, en effet, comme dit Pietra, l'idée du souffle, mais nous, ça, on peut même l'utiliser justement musicalement. Donc là, on a utilisé voilà, des logiciels qui nous permettent d'enregistrer en live ce que fait Pietra et de le déformer, un peu comme un DJ qui va tout d'un coup récupérer une musique, puis la transformer pour la faire passer à autre chose. Donc on s'est amusé aussi avec ce vivant, avec la respiration. Pour moi, il n'y a pas plus symbolique de la vie que de la respiration, pour justement en créer une matière musicale.
Et puis, il y a aussi la vidéo avec tout un jeu de lumière. Et là aussi, on a un peu l'impression que vous cassez le quatrième mur, comme on dit. C'est-à-dire que nous, dans la salle, eh bien, on est presque des éléments de ces faisceaux de lumière que l'on retrouve un petit peu partout.
L'idée, c'était ça. C'était comme on voulait être dans la tête de Pietra. C'était, je parlais de mémoire corporelle au début. Et tout ça passe par des jaillissements. Mais même quand vous n'êtes pas que dans la mémoire du corps, même la mémoire tout court, en fait, tout d'un coup, il suffit d'avoir une Madeleine de Proust, quelle qu'elle soit pour chacun d'entre nous. Hop, tout d'un coup, le cerveau va faire rejaillir une couleur, des vacances, une date, un amour de vacances. Bref, X choses vont arriver avec un détail. Et donc, on ne sait pas d'où ça vient. Voilà, le cerveau se comporte aussi comme le reste du corps, d'ailleurs. C'est des cellules, tout ça. C'est une sorte de mémoire. Et on ne peut pas forcément appuyer sur des boutons pour la convoquer. Tout ça est presque des fois malgré nous. Et ce que je voulais vraiment que le public soit dedans, cette patte-là. Parce qu'on était dans la patte, vous parlez de l'animal, mais l'idée du souffle, l'idée de comprendre l'effort, parce que Pietra parle bien évidemment de son parcours à l'Opéra de Paris, et on ne vient pas dans ses étoiles en comptant fleurettes, donc je veux dire l'idée de l'effort est très importante. Je voulais que les gens sentent ça, mais vraiment le sentent, pas que intellectuellement parce qu'elle était en train de nous le raconter, mais vraiment qu'ils soient dedans. C'était vraiment l'idée, et pour ça que la vidéo est intéressante, parce que la vidéo aussi est traitée. Comme je vous expliquais sur la voix, la vidéo est traitée pour être elle-même en temps réel. C'est-à-dire que la vidéo fonctionne parce que à ce moment-là, Pietra bouge et elle réagit
et
avec
vous
elle.
Synchronisez,
alors
synchronisez
c'est des capteurs,
tout ça.
Il y a un capteur, Pietra a une bague qui capte justement et la musique et la vidéo et qui fait qu'en fonction de ses mouvements, la bague accélère et décélère le son et l'image. C'est-à-dire que l'image varie en fonction. C'est comme un gyroscope qui est comme ceux qu'on a dans nos téléphones
Donc,
portables.
D'une représentation à une autre, on voit pas la même chose sur les écrans.
Non, on voit pas la même chose. C'est-à-dire qu'en fonction si Pietra accélère ou calme à certains moments, la vidéo la suit. Et je voulais ça aussi, parce que c'est vrai que parfois, la technologie, je m'en méfie, parce que c'est des fois des faux amis. C'est-à-dire que, certes, bon, ça peut être intéressant, mais parfois, ça mange l'artiste. Et moi, j'ai horreur de ça. J'aime quand on reste dans un écrin. Et pour moi, l'écrin, c'est non seulement Pietra sur scène, mais c'est également le public. C'est-à-dire que tout le monde est dans cet écrin, dans cette dynamique, dans cette énergie dont on parle beaucoup, Pietra. L'énergie, c'est très important dans le spectacle vivant. Parce que c'est pour ça qu'on ne sait pas, des fois, pourquoi d'un spectacle à l'autre, le public a si fortement réagi ou pas. Mais ça vient qu'on est vraiment sur une alchimie. C'est-à-dire, Pietra leur dit d'ailleurs, elle leur dit je vous vois, je vous sens. Et c'est vrai. Nous, les danseurs, quand on rentre sur scène, on n'a pas besoin de s'adresser aux gens pour savoir s'ils sont là, au sens de l'attention qu'ils nous portent. Et quand les gens sont très attentifs, je peux vous dire que ça nous porte. C'est quasiment comme des applaudissements d'avant-match. C'est-à-dire que c'est comme si cette attention nous galvanisait. Et ça, c'est une alchimie qui est incroyable parce qu'elle est justement sans les mots. Et on voulait aussi que, d'une certaine manière, amener cette explication-là, que le corps perçoit, justement, et que le danseur perçoit aussi ce qui est autour de lui.
La méditation de Thaïs, extrait de l'opéra Thaïs de Jules Massenet, ici interprété par Yitzhak Perlman, une mélodie que l'on retrouve dans Pietragala, la femme qui danse, que vous mettez en scène. Julien Deroux, comment est-ce qu'ont été choisies les œuvres musicales qui rythment le spectacle?
Ça, c'est beaucoup Pietra. Les choix de musique, c'est vraiment Pietra. Elle adore faire ça. Je la laisse en général partir devant, parce que non seulement elle va plus vite, mais elle va plus loin. Et puis parfois, au détour d'un hasard, j'arrive de temps en temps à arriver avec une traque ou deux en disant « Regarde celle-là, elle est bien aussi, on pourrait l'insérer là ». Et puis, ça nous permet toujours... Mais on a toujours travaillé comme ça avec Pietra. Quand il y en a un qui part le premier, l'autre n'y va pas.
D'accord.
Comme ça, ça nous permet justement toujours d'avoir un œil extérieur sur ce qu'on fait. Et puis, quand voilà, ça nous permet de travailler finalement un peu en piston. C'est-à-dire que, du coup, j'attends.
D'accord.
Et j'essaye de voir si musicalement l'enchaînement.
Alors, je vous renvoie la question.
C'est-à-dire que moi, j'ai depuis l'enfance eu une culture musicale assez importante de par mon papa. Je l'explique d'ailleurs dans le spectacle. Et c'est vrai que j'aime mélanger l'univers classique baroque à jusqu'à faire des grands écarts avec de la musique électro, pourquoi pas du rap. Alors là, c'est pas le cas dans ce spectacle, mais en tous les cas, il y a cette envie d'avoir des couleurs différentes, des rythmes différents, des ambiances différentes aussi. Moi, je travaille beaucoup avec des compositeurs qui travaillent avec le cinéma, parce que je trouve qu'ils ont une musique qui est très imagée et qui est très forte, comme Johan Johnson, Olafur Arnalds ou Max Richter. Voilà, il y a même Birdie Nam Nam dans le spectacle. Et puis à côté de ça, il y a quand même le répertoire classique, parce que j'ai travaillé à l'Opéra de Paris et j'ai été baignée dans ce répertoire-là. Alors en passant du Lac des Cygnes à Gisèle, à Carmen, parce que c'est des personnages, c'est des héroïnes qui sont incontournables et la musique l'est aussi.
Le rideau se lève. Il se lève sur un monde inconnu. Un monde inconnu de sensations et d'émotions.
Un jour, Marie-Claude Pietragala, le rideau s'est levé sur un ballet de Maurice Béjart. Vous étiez dans la salle, vous étiez encore petite fille, hein, avec vos parents. Vous expliquez que ça a été une révélation, un choc incroyable. Vous pouvez nous raconter?
Oui, je me rappelle encore. C'était un choc. J'étais, je crois que c'était au Théâtre du Châtelet, et je vois les ballets du XXe siècle, Maurice Béjart, je ne savais pas qui c'était, et je vois cette compagnie, cette troupe extraordinaire, comme je le dis, bondissant. Enfin, ça m'a mis dans un état où je me suis dit, j'ai envie d'être à leur place, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de connaître ces émotions sur scène.
Vous, avec l'envie d'en faire un métier, pas seulement de danser en amateur.
Alors au départ, j'ai voulu évidemment, comme tout le monde, comme tout enfant, j'ai travaillé dans un cours de quartier. Et puis très très vite, j'ai voulu me lancer à l'Opéra de Paris, parce que c'est vrai que moi, je suis une génération où il y avait ce feuilleton L'Âge Heureux qui passait sur je sais plus quelle chaîne.
Les Jours Heureux, je crois. C'était un feuilleton télévisé.
L'Âge Heureux. C'était L'Âge Heureux.
D'accord.
Et du coup, voilà, je découvre le Palais Garnier, je découvre ces dédales de couloirs, les toits, enfin la scène, la magie que ça représente. Et j'ai demandé à mes parents de me présenter à l'opéra. Et c'est vrai que mes parents, n'étant pas dans un milieu artistique, étaient un peu dubitatifs, mais bon, ils ont accepté, ils m'ont accompagnée. Puis j'ai eu cette chance d'être prise tout de suite.
Qu'est-ce que
malgré
vous ressentez
mon côté
à ce moment-là,
atypique,
c'est vertigineux? Ou bien on se dit, ah ben, ça y est, je vais faire quelque chose de ma vie que j'ai toujours rêvé?
Bah, déjà, on découvre un univers qu'on connaît pas parce que c'est un univers particulier, fait de détermination, de travail, de discipline. Voilà, on se sent tout petit parce que c'est, le bâtiment est quand même très impressionnant. Et puis, ben voilà, on essaye de se donner les moyens de réussir. La route est très longue, hein, parce qu'il y a quand même. Moi, j'ai fait 6 années d'école de danse, avec des concours tous les ans, avec la possibilité, malheureusement, de ne plus faire partie de cette école si vous passiez pas de classe supérieure. Et puis après, vous rentrez dans le corps de ballet, et là, dans le corps de ballet, il faut tout recommencer, tout reprouver, et monter les échelons. C'est la seule compagnie dans le monde qui a cette hiérarchie avec ces classes, comme ça, ces grades. Et puis avec des chorégraphes qui arrivent, qui vous donnent votre chance, comme Maurice Béjart, que je retrouve quelques années après et qui me donne la premier rôle de Solis, de l'élu du Sacre, ou Bakhti 3, j'ai participé aussi à Arepo, et puis il me donne le Boléro, donc. Voilà, tout d'un coup, ce grand chorégraphe, cette grande figure emblématique de la danse, je le retrouve quelque part après dans mon parcours.
J'ai appris à être une danseuse. Non. J'ai appris à être une danseuse de l'Opéra de Paris. On m'a appris à penser la danse selon une tradition, un style, une esthétique, un héritage. Je suis entrée dans un monde parallèle où il n'y a pas d'insouciance, un monde où se côtoient exigence, travail et détermination. Un monde où princesse esprit fait mes sentiers. Lors-toi. Ma mémoire est teintée de souvenirs épars. Escapades sur les toits, de répétitions rotondes, des embellies, de révérences faites dans les couloirs. À chaque fois que l'on croise un professeur de cours particulier au dimanche matin, de mon entrée dans le corps de ballet, d'une peur incontrôlable, avant un concours de promotion, et de tourner au Japon, la voix du régisseur dans le micro qui annonce 20 minutes avant la représentation de mon premier. C'est mon premier tutu.
Vous avez encore votre premier tutu ?
Alors non, j'ai plus mon premier tutu, mais j'ai un tutu assez emblématique qui est le tutu de Don Quichotte, du rôle de Quitry, puisque j'ai été nommée sur Don Quichotte et j'ai quitté l'opéra sur Don Quichotte. Donc voilà, c'est un tutu qui m'a accompagné, que je garde.
Ces années d'apprentissage à l'Opéra de Paris, est-ce qu'elles ont été un âge heureux, Marie-Claude Patrick?
Oui, ça a été heureux. Moi, souvent, parce qu'on a entendu beaucoup de choses, et de la part de certains de mes confrères ou de mes consoeurs qui...
On entend souvent dire, le stress, c'était... la peur, tous les coups sont permis, d'y arriver et d'écraser les autres. C'est pas ce que vous avez ressenti?
Non, alors moi, j'ai pas vécu le fait de y arriver en écrasant les autres. Je pense que chacun a sa place et chacun est différent, donc... Après, je pense qu'il faut prouver aussi par sa singularité, par son travail, par ce que l'on fait. Oui, certes, c'est difficile, certes, mais on n'a rien sans rien. Et ces années d'apprentissage, je les ai vécues plutôt avec envie, gourmandise, de découvrir des univers que je ne connaissais pas et de travailler avec des gens qui m'ont passionné. Après, le corps de ballet, c'est aussi une jungle particulière parce que il faut prouver, il y a des concours, vous passez d'un directeur à un autre directeur, donc c'est pas obligatoirement, les choses sont pas acquises. définitivement. Mais en même temps, c'est ça la beauté de ce métier, de cet art.
Mais l'ambiance qui s'installe dans la salle à ce moment-là, Julien de Robot, on a presque l'impression qu'elle est tourbillonnante, qu'on a presque l'impression qu'on est dans une forme de labyrinthe. Il y a plein de choses qui se passent sur scène en ce moment, en adéquation avec les mouvements du corps de Marie-Claude Pietragala. Il y a un côté vertigineux dans ces années Opéra de Paris.
C'est ce qu'on a voulu retraduire. C'est-à-dire, Pietra, quand vous dites, vous posez la question de savoir si ça a été en effet douloureux, etc. Moi, c'est vrai que souvent, on se bagarre beaucoup parce que Pietra l'a pas vécu. Et puis, c'est vrai que c'est souvent ça. La danse est ramenée souvent à ça, à la douleur, etc. C'est difficile, etc. Mais c'est vrai. Donc, Pietra le dit d'ailleurs, c'est vrai. Mais on pose jamais la question à un boxeur. Est-ce que vous croyez que d'être boxeur, d'être champion du monde de boxe, on prend pas de coups, c'est pas dur, on s'entraîne pas? Enfin, je veux dire, c'est pareil. Il faut être. Et du coup, si on regarde ça de l'autre côté de la barrière, on se dit, mais faut être un cinglé pour vouloir faire de la boxe. Donc, faut être un peu cinglé pour faire de la danse. Mais en fait, la passion qui anime ces gens-là, qui anime... Et c'est pour ça que je nous compare des fois aux sportifs de haut niveau, parce que c'est le corps aussi qui est en action. Moi, je comprends bien ça. Et le haut niveau, c'est pareil. Vous croyez que dans le foot, il n'y a pas de, vous croyez qu'il n'y a pas de compétition? Vous croyez qu'il n'y a pas de, vous voyez ce que je veux dire? Il faut être le meilleur. Et donc, c'est pareil dans tous les, et ce dépassement du corps, ce que voulait dire Pietra aussi, et je pense que c'était important, moi, je voulais que les gens le sentent, c'est que c'est vertigineux. Et que si vous ne comprenez pas l'adrénaline, la sensation extraordinaire d'avoir travaillé pour ce résultat-là. Et quand ce résultat, parce qu'on vous maîtrisez vraiment une chorégraphie, ou que vous avez été du coup applaudi, ou que vous avez monté un échelon à l'opéra, grâce à ce travail, pas grâce à, je sais pas quoi, aux followers ou au copinage, non, grâce au boulot. Vous avez bossé, vous avez réussi. Cette adrénaline sur scène, elle est irremplaçable. Elle n'a pas d'équivalent. Elle est le fait que vous êtes vous-même avez planté votre drapeau en haut de la montagne. On vous a pas déposé en hélicoptère en haut de la montagne seulement pour faire un selfie. Vous avez vous-même, tel un Maurice Herzog d'aujourd'hui, grimpé, vous vous êtes brûlé les doigts, mais vous êtes celui qui a vaincu l'Annapurna, votre Annapurna. Parce qu'un danseur se bat contre lui-même. Nous sommes en compétition avec nous-mêmes pour faire le mieux possible, toujours à travers le geste et la chorégraphie.
Oui, j'ai plongé un corps perdu dans un monde florissant de salles de danse, de couloirs infinis de loges, de coulisses, de scènes, de décors, de costumes, d'accessoires de tout genre, de foyers, de portraits, de tentures rouges, de rideaux de fer, d'odeurs, de colophones, de pianos, de pianistes, de professeurs, de directeurs, de danseurs, de quadrilles, de coryphées, de concours, d'étoiles.
Voilà, vertigineux, on le disait, avec l'étoile. Alors l'étoile, c'est un peu l'Annapurna, pour reprendre la métaphore de Julien de Rouault, Marie-Claude Pietragala. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous êtes nommée étoile en 1990?
C'est particulier parce que en plus, je vis une tourmente intérieure, je suis blessée. Donc je sais que c'est une chance pour moi et donc je peux pas remettre cette chance à un autre jour. Donc je danse blessée. C'est vrai que à la fin du spectacle, quand je vois entrer Patrick Dupont, puisqu'il vient d'être nommé directeur de la danse avec Jean-Albert Cartier, qui dirigeait l'opéra à l'époque, et que j'entends mon nom, effectivement, on a l'impression que le temps s'arrête. Et puis je me revois tout de suite petite, rentrant à Garnier, en me disant, en étant émerveillée, et en se disant, bon, la route va être longue, on tente à accéder au Graal, qui est l'étoile, mais on n'en est pas sûr. C'est un moteur. Et en même temps, quand ça arrive, je disais souvent ça à Julien, puis je dis aussi ça aux autres danseurs, à la jeune génération. Je pense que c'est un départ pour autre chose. C'est une autre naissance.
Donc c'est à la fois un honneur et une responsabilité.
Ah, c'est un honneur, oui. C'est une responsabilité. Parce que, comme je le dis dans mon spectacle, on devient un exemple. Et être un exemple, ça se mérite. Ça se mérite tous les jours. Et puis tout d'un coup, c'est aussi un monde qui s'élargit parce qu'on peut travailler avec des chorégraphes, on peut aborder des personnages que l'on n'a pas abordé avant, et puis tout ça nous enrichit.
Nouvel extrait du spectacle.
Trois notes de musique et les sensations physiques, les émotions ressuscitent instantanément. Mon corps se souvient de ces moments intenses, de ces héroïnes incarnées.
endosser hein, effectivement des rôles sur une scène de ballet, Marie-Claude Petragala. Ce sont des rôles que vous avez non pas interprétés, mais que vous avez incarnés. Hein. C'est le mot que l'on a entendu dans l'extrait, incarnation, donc le théâtre du corps. Hein, c'est le nom de la compagnie que vous avez fondée tous les deux. Est-ce que la danse, c'est du théâtre?
Oui. Sont des acteurs, on est des acteurs qui parlent avec notre corps. Alors c'est vrai qu'on a envie, on a eu envie avec Julien de travailler aussi sur le théâtre, sur la littérature, la poésie. On a travaillé sur des grands auteurs comme Ionesco, comme Aragon, Musset, Coltès. Oui, il y a cette notion. Moi, j'ai toujours pensé qu'on était des acteurs, les danseurs. Hein. On investit un personnage, on l'incarne, et on va comme ça apporter non seulement une lecture singulière de ce personnage en apportant notre caractère et notre personnalité, mais en même temps pleinement à l'intérieur et investi justement de l'histoire que l'on raconte.
Mais alors comment on entre dans le personnage? On rentre par la musique, par la lecture. Par exemple, pour Juliette, vous avez lu Shakespeare. Pour Esmeralda,
absolument,
vous avez lu Hugo.
Oui,
il y a plein d'éléments comme ça qui rentrent en ligne
de
compte.
Oui, il faut bien sûr lire. C'est des héroïnes qui sortent de la littérature, bien sûr, c'est important. Et puis après, il faut y faire aussi un travail personnel. Comment on la voit? Comment le personnage, quelle couleur on va lui donner, quel relief. Oui, bien sûr, comme un acteur, absolument.
Julien Deroux, quel est le personnage incarné par Marie-Claude Petragala qui vous vient tout de suite à l'esprit? On va dire le rôle de sa vie, si tant est qu'il y en ait un au singulier.
Moi, j'ai été très marqué. Alors, c'est pas vraiment un rôle, mais c'était un solo que Pietra avait fait, qui s'appelait Don't Look Back, qui avait été écrit pour elle, qui est la première danseuse à avoir fait l'Olympia, justement, avec ce solo. Et moi, c'était un personnage, parce qu'elle se travestissait, elle devenait un homme, elle redevenait une femme, etc. C'était très, très beau. C'était sur les textes de Fernando Pessoa. Et donc, du coup, c'était, voilà, ça m'a marqué. Parce que pour moi, Pietra, à chaque fois que j'entends la musique de ça, je me revois à l'Olympia avec. C'était incroyable, incroyable d'avoir en plus et d'avoir en plus à travers ce rôle, il est pour moi particulièrement mythique, un peu comme Lorenzo est mythique pour Gérard Philippe. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est aussi un rôle qui fait qu'elle, Pietra, sort la danse de l'institution. Pour l'emmener aussi dans un théâtre populaire, parce que Pietra est persuadée, et ça pour moi c'est presque peut-être ce qui m'a fait tomber amoureux d'elle, c'est qu'elle est persuadée aussi que la danse c'est pour tous les yeux. Il n'y a pas besoin d'être né dans la culture, d'avoir ce fameux capital culturel pour la comprendre, tout ça ce sont des conneries. Au contraire, je pense que la danse est un des arts les plus universels, on danse partout. Les enfants bougent avant de savoir parler. On a ce rapport au mouvement. Et donc, des fois, des esthétismes, d'ailleurs, qui vont nous plaire, pas nous plaire. Enfin, bref. Après, c'est les goûts, c'est comme la musique. Mais il y a un rapport très instinctif à la danse. Et c'est pour ça aussi que Pietra et moi, on adore les acteurs qui dansent. Parce que souvent, c'est parce qu'un personnage, en dansant, raconte en plus quelque chose. Alors, il nous intègre dans une histoire et fait que visuellement et chorégraphiquement, on va encore plus être attentif à ses mouvements, parce que justement, il danse et il joue en même temps.
Alors, on a entendu la liste des personnages, et vous enchaînez quelques minutes après sur une liste de chorégraphes.
La danse est un mystère. Thank you.
ça c'est du CV, hein. Comme on pourrait
ça,
le dire.
C'est le panthéon, ça.
Voilà, c'est votre panthéon.
C'est mon panthéon.
Avec des chorégraphes français et internationaux. Oui. Alors chacun, j'imagine, était évidemment très différent. Mais est-ce qu'on peut parler, Marie-Claude Pietragala, d'une école de danse française, d'une école russe, d'une école allemande, d'une école anglo-saxonne?
Oui, 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 on peut penser ça. Après, nous, on a eu cette chance extraordinaire d'avoir Rudolf Nureyev qui est arrivé, qui avait déjà lui-même fait une synthèse de beaucoup, beaucoup d'écoles et qui nous a fait gagner du temps en justement nous proposant une danse actuelle, moderne, moderne à travers le classicisme, hein, mais en mélangeant les écoles et en nous donnant justement à manger le meilleur de toutes ces écoles.
Il est là, devant nous, le regard fier et sauvage, emmitouflé dans plusieurs châles et des sabots aux pieds. Ah, les sabots de Rudolf. Combien de fois je les ai vus traverser la salle de danse comme des projectiles lorsque son humeur était orageuse. Vous pas comprendre ce que moi dire, moi demander arabesque croisée, vous faire arabesque bizarre, pas académique. Oui, Rudolf, j'ai compris, mais l'arabesque, vous la voulez en diagonale ou à plat, les bras en première position, couronner l'arabesque, elle est penchée. Donc, vous, pas par les fers, moi, demander arabesque croisée, pisse d'or. Oui, Rudolf pouvait être colérique. Mais mon admiration est intacte.
Alors on rit évidemment oui, à ce moment-là du spectacle quand vous évoquez Rudolf Nureyev avec donc ses sabots et ses accès de colère. Hein, il a dirigé le ballet d'opéra de Paris de 83 à 89. Mais au-delà de ce caractère rugueux que vous évoquez, cette exigence sans merci, cette volonté de jusqu'au boutisme qui était la sienne pour lui comme pour les autres, comment est-ce que vous pourriez résumer l'esprit du travail de Nureyev tel que le public pouvait le découvrir sur les plateaux?
C'était quelqu'un qui était jusqu'au boutiste et qui était excessivement passionné par la danse, presque obsessionnellement, et qui a dédié sa vie à la danse et qui a dédié sa vie à la danse, qui a certes avec un caractère fort, mais en même temps vu son parcours, on peut comprendre qu'il se soit forgé ce caractère-là tout au long de sa vie, et il nous a éclairé de son aura, de son intelligence de la scène. En tant que chorégraphe, il a dépoussiéré le répertoire classique, il a amené une exigence, une technique, une virtuosité aux danseurs qui ont été ma génération, jusqu'à la transporter jusqu'à maintenant. Voilà, c'est vrai qu'on n'est pas indemne quand on travaille avec Nureyev, et c'est obligé qu'il nous marque à vie, comme nous a marqué Patrick Dupont après, qu'il l'a succédé et dans sa direction aussi. Mais c'était quelqu'un qui était excessivement passionné, déterminé, ne faisant aucun compromis, ne montrant aucune faiblesse, même s'il en avait, mais en tous les cas, voilà, avec essayant son maître mot, c'était la danse, la danse, la danse.
Alors, hommage à Nureyev, hommage effectivement à Patrick Dupont que vous avez déjà cité, c'est lui qui vous a nommé danseuse étoile, vous étiez très proche de lui, oui. Il est décédé il y a un petit peu plus d'un an, des suites d'un cancer du poumon. C'est un moment, j'imagine, très important pour vous, hein, sur
oui,
scène,
c'était
dans
important,
le spectacle, très émouvant
vrai,
du spectacle.
C'est vrai qu'on s'est posé la question avec Julien, puisque on a vécu sa disparition d'une façon cruel et terrible, et je trouvais important, enfin on trouvait tous les deux important de lui rendre hommage. Et puis je trouve que la danse qui arrive juste avant, après lui rendre cet hommage, je trouve que ça lui correspond bien. C'était quelqu'un d'une grande générosité qui a inspiré des générations de danseurs, et qui était profondément humain et profondément touchant. Et voilà, j'avais, enfin, c'était comme mon grand frère, quoi. C'est comme un mentor, comme quelqu'un qui montre la voie.
Le mouvement a une dynamique et une résonance. Dynamique, résonance avec les mains. Dynamique et résonance. Le plus difficile est de lier les mouvements les uns aux autres. Comment d'un premier geste naîtra le second? Comment d'une pirouette naîtra un équilibre? Pirouette, équilibre. Encore une fois. Pirouette, j'enfonce la jambe pivot et je me pulse sur la gauche.
On est vraiment dans un échange avec la salle, vous avez compris. Donc effectivement, il y a vraiment de complicité et de rire. Ce moment-là, Julien Deroux, vous l'avez vraiment conçu comme une sorte d'appel à danser, un encouragement pour le grand public finalement à suivre, aussi oui. Modestement soit-il, les traces de Marie-Claude Petragada.
Et puis d'être drôle aussi, il faut vraiment clairement d'être aussi en parler au public, parce que je vous parlais tout à l'heure qu'on voulait éviter la conférence, mais il y a un moment, c'était quand même très sympa de se dire qu'on allait casser le quatrième mur et qu'on allait s'adresser aux gens en leur disant, bah, finalement, mettez les bras en l'air, etc. Est-ce que vous êtes capable de me suivre? Enfin, c'était assez amusant. D'ailleurs, les gens rigolent, les gens, ça les fait. Et puis, comme Pietra aborde quand même, là, on parlait juste avant de Nureyev, de Dupont, il y a quand même des séquences qui sont très, très, au sens dur, enfin, je veux dire, fortes émotionnellement.
Bien sûr.
Donc, on peut pas non plus rester toujours là-dessus. Il faut aussi
pour
savoir.
Relâcher un peu la pression et
voilà, on parlait de Patrick. Patrick, c'était vraiment pour moi le symbole aussi de la gentillesse et de la joie. Je la vois quasiment comme une révolution, d'ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin aussi de ça, de se dire que le, on a besoin de rire, on a besoin de, aussi, je pense qu'on est dans une période où on a besoin aussi de faire les choses sérieusement, sans se prendre au sérieux. Et c'est ça aussi qu'on voulait montrer à travers ça. C'est qu'on peut faire les choses extrêmement sérieusement. Pietra a rencontré des génies, elle le dit, et puis elle-même un génie sur scène, clairement. Mais que, il faut pas se prendre, voilà. Il faut d'abord, en effet, travailler et que finalement, ce qui va naître de tout ça, c'est en soi, c'est déjà un bonheur immense pour un artiste et que, voilà, il faut aussi savoir casser tout ça, s'amuser, en jouer, parodier. La satire est très importante dans le monde dans lequel on vit.
Et comment vous avez justement imaginé créer le mouvement, les gestes pour ce spectacle qui, encore une fois, vous met en scène, vous, Marie-Claude Petragada?
C'est trouver le mouvement juste, avec la bonne qualité et puis le sens aussi, parce que c'est ça, j'explique d'ailleurs dans le spectacle, le plus important quand on danse, c'est trouver le sens et la qualité du mouvement. Donc à chaque tableau et à chaque idée, il faut trouver effectivement la gestuelle qui va avec, ou qui va contre d'ailleurs, hein, parce que on n'est pas obligé toujours d'aller dans le même sens.
Du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. Que ce fut, j'étais précoce, de tendres amours de gosse, ou les morsures d'un amour fou.
La voix de Barbara, évidemment, dans VMDN sur RFI. Vous avez aussi un petit mot pour elle, hein, Marie-Claude Petragada.
Oui,
c'est
à
vrai
la
que
fin,
même
oui,
physiquement,
très
on se dit que vous cultivez une forme de
c'était
ressemblance.
C'était une femme qui chantait, elle se définissait comme une femme qui chante. Donc, oui,
voilà. Qu'est-ce que vous ressentez, justement, quand vous saluez le public? La plus belle histoire d'amour, c'est vous, c'est ça?
Oui, et puis de la gratitude, et puis merci pour cette fidélité. C'est un parcours de vie aussi avec le public. C'est des gens qui vous accompagnent, qui suivent votre travail, qui suivent le travail du Théâtre du Corps avec Julien, qui sont là année après année. Donc c'est tout ça est excessivement touchant, oui, bien sûr.
La femme qui danse, c'est donc au Théâtre de la Madeleine jusqu'au 6 novembre. Et ensuite, vous enchaînez tous les deux pour un autre spectacle qui va se tenir au Théâtre le 13e art, donc 13e arrondissement de Paris, du 21 au 31 décembre. Ça va s'appeler La Leçon. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot?
Oui, alors c'est un peu l'inverse, là. C'est-à-dire que c'est moi qui vais passer derrière la caméra. C'est-à-dire que c'est moi qui vais signer la mise en scène. Et là, Julien va endosser le rôle titre du professeur, un professeur assez extravagant. C'est la leçon évidemment inspirée de l'œuvre de Jeanne Ionesco. Mmh. Et pendant 10 représentations exceptionnelles pendant les fêtes de Noël au mois de au mois de décembre avec la compagnie, le Théâtre du Corps. Donc c'est quelque chose de formidable parce que effectivement là, je sens la femme qui danse, je suis seule, mais je ne suis pas que une femme qui danse seule. J'ai aussi, il y a aussi Julien, il y a aussi la compagnie, le Théâtre du Corps, avec de merveilleux danseurs.
Oui, c'est un spectacle, donc c'est tiré, comme disait Pietra, de la leçon de Ionesco, qui est vraiment un des pères fondateurs du théâtre de l'absurde. Et c'est vrai que, bon, vu la période qu'on a traversée récemment, qui quand même, pareil, flirtait avec l'absurde, on s'est dit que de retourner aux sources, c'est-à-dire justement au père fondateur de l'absurde, et cette leçon qui est de quelle manière ce professeur, en effet, comme dit Pietra, déjanté, hein, vraiment borderline, va finalement prendre le contrôle de ses élèves en les abreuvant de connaissances diverses et variées. Et souvent, en rigolant, je dis bien évidemment que toute ressemblance avec la période est tout à fait fait exprès, parce qu'en effet, nous avons tous été un peu épidémiologistes à nos heures perdues, le dimanche, le samedi, le lundi, le mardi. Donc c'est vrai que on comprend ce que c'est que de tout d'un coup être finalement d'avoir ça qui nous tombe dessus et que ça nous a finalement totalement bloqué, ça a annihilé toute pensée critique, toute action, et c'est merci. Exactement le thème de cette leçon.
Merci beaucoup à tous les deux, Marie-Claude Pietragala et Julien Derouault. Dans un instant, l'info sur RFI, à demain, et vous m'en direz des nouvelles.